Il est 8h. De la bonne musique, des cadeaux, votre horoscope. Voici le cocktail concocté jusqu'à 9h. Philippe pour vous accompagner. Belle écoute.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Il est mort de rire, Philippe. Je te fais rire comme ça?
Non, mais c'est toujours, en fait, de trouver les bonnes paroles, tu sais, pour le petit bout de musique, le petit bout de jingle.
Et 8h, on est bien, quoi.
Et c'est Xavier Bourgeon qu'on retrouve pour le journal. Bonjour Xavier.
Bonjour. La rentrée scolaire approche, accompagnée de sa nouvelle campagne de sécurité routière, mise sur pied par 5 organisations. Elle vise à permettre aux enfants de se rendre à l'école d'une manière sûre et en toute autonomie. Les automobilistes sont les principales cibles de cette action, mais chaque partie a plusieurs règles à respecter. Clément Format, sergent à la section circulation et prévention routière de la police cantonale valaisanne.
Pour l'enfant piéton, ce qu'on lui demande, c'est de s'arrêter avant de vouloir traverser la route. Donc, pour un enfant, on va lui dire tout simplement de coller les pieds. Parce que s'arrêter, ce terme, il le connaîtra mal. Donc, coller les pieds, ben, automatiquement, il va s'arrêter. S'il me met à la place de l'automobiliste, on demande à l'enfant, avant de pouvoir traverser, que la voiture soit complètement arrêtée. Donc, il est important que l'automobiliste immobilise son véhicule pour qu'ensuite l'enfant puisse traverser. Ensuite, on demande à l'enfant de regarder des deux côtés. À son âge, on ne va pas lui parler de gauche et droite. Des deux côtés, c'est important. L'automobiliste, ben lui, il ne faut pas qu'il se focalise avec la voiture de devant ou éventuellement sur son écran tactile du véhicule. L'automobiliste va devoir aussi regarder de chaque côté de la chaussée, c'est les trottoirs. Qu'est-ce qui se passe sur les trottoirs ?
Et à noter que chaque année, près des 3/4 des graves accidents de la route impliquant des enfants se produisent à la traversée de la route. C'était un sujet signé Thierry Nicolet. Un incendie s'est déclaré à Glion hier après-midi en dehors d'un bâtiment comprenant 3 appartements. Selon les informations de la police cantonale vaudoise, un tas de déchets exposés devant l'habitation a pris feu pour une raison encore indéterminée. Les flammes se sont propagées le long du bâtiment et ont fortement endommagé un chalet attenant. L'intervention a été menée par les pompiers du SDIS Riviera et aucun blessé n'est à déplorer. A noter enfin qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'incendie. Un nouveau télésiège va voir le jour à Villars cet hiver, reliant le bas du lac Noir au sommet de la Chauronde. Il remplacera l'ancienne installation qui avait été construite en 1995. L'objectif de ce projet, augmenter la sécurité des pistes et mieux servir la population. Ce 8 places doublera sa cadence et pourra accueillir près de 4000 personnes par heure. Le télésiège est par ailleurs équipé d'une technologie Direct Drive. Les explications de Christian Dubois, directeur de Télévillars Grillon Diableret.
Nous voulons économiser de l'énergie. Nous avons tous maintenant ces grandes discussions. Nous avons la possibilité soit de mettre un moteur en direct, c'est-à-dire d'enlever la boîte de vitesse ou d'enlever la boîte de transfert qui fait un renvoi d'angle et qui fait des pertes d'énergie et du bruit. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'équiper ce moteur de cette technologie particulière qui est naturellement plus coûteuse, mais qui est moderne et qui nous permettra d'arriver au sommet du lac Noir sans bruit, très calmement, et de voir les environs ainsi que tous les oiseaux et toute la faune locale avec grand plaisir.
Des propos recueillis par Julie Gay. Et à noter que les skieurs et randonneurs pourront profiter de cette nouvelle installation dès décembre prochain. Les 4 fêtières de l'économie suisse sont entrées en campagne hier en vue des votations du 25 septembre. Leur président respectif appelle à accepter la réforme de l'AVS avec son financement par une hausse de la TVA et l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Ils sont pour l'abolition de l'impôt anticipé sur les obligations et l'initiative populaire sur l'élevage intensif est, elle, fermement combattue. Pour l'Union suisse des paysans, imposer des règles coûteuses de consommation et à l'encontre de la liberté individuelle ne peut pas fonctionner. Son président Markus Ritter.
Pour nous, la durabilité de la production, de la consommation est très importante. C'est pour l'avenir de nous, de nos enfants. Mais ici, c'est important que nous avons des règles sur le niveau de loi et nous avons le marché. Et si nous avons sur le marché les demandes, nous ne pouvons pas produire quelque chose que nous ne pouvons pas vendre. Et c'est très important. Et toujours la même chose, il veut dire les consommateurs, les gens en Suisse, maintenant, vous devez faire ça. Et si les consommateurs ne veulent pas, cela ne fonctionne jamais.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Frédéric Nejad Toulami. À l'étranger, l'ex-président russe Dmitri Medvedev a effectué hier, avec plusieurs autres responsables russes, un déplacement dans une région séparatiste pro-russe de l'est de l'Ukraine. Il a appelé à resserrer encore les liens avec Moscou. Il s'agit de l'une des plus importantes délégations russes à se rendre dans l'est ukrainien depuis le début de l'attaque de Moscou le 24 février. Dans un communiqué, Dmitri Medvedev a affirmé avoir eu des entretiens au sujet des mesures à prendre en priorité pour assurer la sécurité des républiques du Donbass, sur instruction du président russe Vladimir Poutine. Un homme armé qui a tenté hier de pénétrer par effraction dans les bureaux du FBI à Cincinnati a été tué après plusieurs heures de confrontation avec la police fédérale américaine. Les faits se sont produits alors qu'une perquisition du domicile de Donald Trump par le FBI lundi a provoqué la colère des milieux d'extrême droite. Le directeur de la police fédérale américaine avait annoncé mercredi que le FBI avait reçu des menaces après la perquisition. On passe au sport. En tennis, la Suissesse Belinda Bencic s'est imposée en huitième de finale 6-1, 6-3 devant l'Espagnol Garbine Muguruza au tournoi de Toronto. Et ce vendredi, toujours en night session, la 12e joueuse mondiale affrontera en quart de finale la Brésilienne Haddad Maia, 24e au classement WTA. En football, le FC Bâle sera au rendez-vous des barrages de Conference League. Les Rhénans se sont qualifiés hier contre Brøndby Copenhague 3-1 au tir au but. En barrage, Bâle affrontera le CSKA Sofia. Il n'y a par contre pas eu de miracle pour Lugano en Israël. Les Tessinois ont perdu 3-1 contre Apol Beersheva. Et enfin, les Young Boys de Berne se sont facilement qualifiés en battant Kuopio 3-0 après avoir déjà gagné 2-0 en Finlande au match aller. En barrage, les hommes de Rafal Vicky seront opposés aux Belges d'Anderlecht. En football toujours, au niveau régional, le Chablais vaudois se cherche un nouveau souffle. Alors que la saison 2022-2023 sera lancée ce week-end, aucune équipe de la région ne militera plus haut que la 3e ligue. De mémoire de passionnés, il s'agit d'une grande première. Pourtant, des clubs comme le FC Aigle et le FCB, qui font office de figure de proue, sont centenaires. Entre les problèmes financiers, les difficultés à trouver des sponsors ou encore le manque de joueurs et d'entraîneurs qualifiés, les facteurs sont multiples pour expliquer cette situation qui préoccupe les clubs, comme l'explique Marco Carvalho, futur président du FC Aigle.
On en parle, on en discute entre les différents clubs. C'est vrai que, en principe, nous sommes le club de référence, le club phare en fait, du Chablais vaudois. Mais malheureusement, c'est ça, on est en manque d'effectifs de joueurs, donc là je parle des actifs. Mais forcément, vu qu'on a moins de juniors qui arrivent derrière, donc ben, forcément on a moins d'actifs. Alors du coup, je dirais même qu'on se pique les joueurs entre nous. Alors qu'en principe, on aurait dû essayer de tenter de garder un club fort comme le nôtre Aigle et puis tenter de l'alimenter via les autres clubs. Mais ça ne s'est malheureusement pas fait, puis ça ne va pas se faire en fait.
Marco Carvalho, interrogé par Julien Traxel. Cette saison, le FC Aigle, fraîchement relégué, évoluera en 3e ligue, tandis que son rival du FCB continuera à manger son pain noir un étage plus bas. Et on termine avec de la natation. Le relais 4x200 mètres nage libre masculin helvétique a manqué de peu l'exploit lors de la première journée des Européens Grand Bassin à Rome. Les Helvètes ont pris la 4e place de la finale remportée par la Hongrie. L'ambitieux quatuor helvétique, qui s'était classé 6e au JO de Tokyo l'été dernier, a réalisé 7,08,26 pour échouer à 1 seconde et 29 centièmes de la 3e place décrochée par la France.
Merci beaucoup Xavier. Tout à l'heure, à 11h30, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ?
En balade, on va parler musique de chambre. Ça te parle ?
C'est ce que j'écoute voilà. Le soir avant de dormir.
Dans ta chambre. Non, on va s'intéresser au 33e festival de musique de chambre de piano de Saint-Léger-la-Chiesa. Donc voilà, on va s'intéresser à ce festival qui vit depuis de nombreuses années, qui intéresse de nombreuses personnes. Et on va découvrir ce que c'est la musique de chambre. C'est en fait une musique en petit groupe ou des solistes, flûtistes ou contrebassistes ou cuivres. Et à l'époque, ça se faisait dans des grandes chambres, dans un palais, avant que ça soit des concerts. Voilà, c'était un petit peu l'histoire de la musique de chambre.
Ça va être une belle découverte, parce que pour beaucoup de personnes, on entend parler, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire.
On va essayer, en tout cas.
Merci beaucoup, Xavier. À tout à l'heure.